Rendez-vous.
Rendez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau.
Nouveau.
Ce soir.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au NRV, le magazine de la double soirée, puisque cette année, vous le savez, ça commence d'abord sur le net à 18h en avant-première sur franceinter.fr en podcast, et puis ça recommence à 22h minuit à l'antenne, comme tout le monde. Ce soir, une émission retour gagnant, midi première, le retour avec Daniel Gilbert. Non, ça ne se passe pas à la télévision, mais au Casino de Paris. Daniel Gilbert face à ses idoles, Mike Brandt, Joe Dassin, Dalida, Coluche et Claude François. Des hologrammes, non, des sosies, sauf vous Daniel Gilbert, bonsoir.
Non, bonsoir, mais ce ne sont pas des sosies, ce sont des artistes interprètes qui chantent très bien dans la vie et qui savent faire revivre justement
les personnages,
les personnes. Et ils chantent très très bien, ils improvisent, il y a un orchestre de 9 ou 6 musiciens, ça dépend des finances.
On va revenir sur cette soirée avec vous. Star 80, le retour à la télé, non, mais partout en France, dans les Zéniths et bientôt au Stade de France, avec Patrick Hernandez, l'homme Born to be Alive. Et en live ce soir, Patrick Hernandez, bonsoir.
Bonsoir, Roland.
Les Césars, le retour à la télé, et oui, ce sera vendredi, mais pour l'heure, c'est un livre de salut public. Le César nuit gravement à la santé. Vous en savez quelque chose, Laurent Bounic, réalisateur. Vous vous êtes tapé tout le coffret César de l'édition 2018 et ça donne une bien belle image du cinéma français. Laurent Bounic, bonsoir.
Bonsoir.
Et dans le NRV de la suite ce soir, retour à la Terre. Les bobos sont dans le pré, mais pas que, je sais.
Oui.
Benoît Lagan.
Oui, bien évidemment. Par exemple, tenez, un prof de mécanique qui décide de reprendre la ferme de son père et d'y ouvrir un cabaret. Il sera présent avec nous tout à l'heure. Une graphiste parisienne qui se lance dans la brebis dans le Cotentin. Un commercial d'une grosse boîte européenne. Vous voyez que c'est pas que des bobos. À 3 jours du Salon de l'Agriculture, l'avenir est-il dans le pré? On en parle donc avec Delphine Détry, documentariste, Bernard Olivier, journaliste, Alexandre Mirmont, maraîcher restaurateur et cette fameux éleveur qui ouvre un cabaret, David Comette.
Eh bien voilà, le NRV, c'est parti pour aujourd'hui.
France Inter, le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
C'est manifestement très télévisuel ce soir, se énerver avec vous, Daniel Gilbert, qui avait été notre Marianne de midi première dans les années 70-80. Et puis vous, Patrick Hernandez, l'homme d'un tube qui a changé votre vie pour le meilleur et pour le pire. Je me souviens très bien de ce que vous écriviez dans votre autobiographie. On vous avait déjà reçu ici à cette occasion. Exactement. Vous vous connaissez, bien sûr, tous les deux.
Très bien.
On se connaît très bien, oui, effectivement.
Vous avez fait des émissions ensemble?
Bien sûr.
De très bonnes émissions, d'ailleurs, entre parenthèses. Et une qui passe en boucle, d'ailleurs.
Pour quelle raison elle passe en boucle?
Parce qu'elle était franchement pas mal.
Et puis toi, t'avais comme danseuse, t'avais Madonna à un moment donné.
Oui, tout à fait.
Dans l'émission de midi première, non, elle n'était pas dans ce cadre-là.
Non, dans le cadre de midi première, elle n'est jamais apparue. Donc.
Laurent Bounic, on va parler télévision aussi avec vous. Ça vous dit quelque chose, midi première?
Faut sortir un peu, hein. Faut connaître son histoire.
On
de
est de
France.
La même génération, donc généralement on a pu voir les mêmes choses à la télévision si vous aviez la télé à l'époque.
Non, mais ils regardaient pas, tu penses?
Tu parles? Non. Si, je connais, c'est ma génération.
Ben ouais, on est tous nés avec ça.
Non, je suis pas. Enfin, moi particulièrement, je suis punk, donc.
Une autre scène. Alors, je vous présente Laurent Bounic. Il est réalisateur, entre autres, de Zonzon. Il est acteur, scénariste. Et il s'est lancé l'année dernière un défi relayé sur Facebook, d'ailleurs. Regardez tout le coffret des Césars de l'édition 2018. Tous les films, les documentaires, les courts métrages. On pouvait vous suivre au jour le jour. On pouvait suivre les commentaires sur Facebook avec beaucoup de likes quand ça ne parlait de rien et un peu moins quand vous descendiez le film. Il y avait des hauts et des bas, des enthousiasmes, beaucoup, je pense notamment à 120 battements par le cœur, des désespoirs, quand vous regardez Les Gardiennes de Xavier Beauvois. Aujourd'hui, ça sort en livre, Le César nuit gravement à la santé. Combien de jours de visionnage?
Un mois, alors que normalement on a un mois et demi. Mais c'est.
Mais personne ne le fait.
Non, seulement personne ne le fait, mais c'est impossible. Et puis ça montre que, de toute façon, les Césars, ça veut absolument rien dire. C'est juste du copinage. Et surtout, on n'a pas l'occasion de voir tous les films. Et d'ailleurs, dans mon bouquin, je propose une possibilité où tous les votants puissent regarder tous les films, et les Belges viennent de le faire. C'est simplement d'avoir un lien où on voit le film quand il sort, donc on a un an pour voir tous les films, mais la France, comme c'est un système de copinage où on veut rester... Si vous voulez, ce qui est en train de se passer en France est très très intéressant. Alors je vais parler des Gilets jaunes, c'est-à-dire que là, il y a une remise en question de tout ce qui est, comment dire, de tous les fondements de notre société actuelle. Et là, si on n'écoute pas, si on n'entend pas, enfin, par exemple, vous voyez sur à la télévision, des présentateurs qui deviennent totalement réactionnaires. Donc, si vous voulez, ça montre comment la France est en train de se couper en deux. Et le cinéma est la vision de ce qu'est la France. Et là, actuellement, le cinéma français va très très mal. Pourquoi ? C'est parce que il est aux mains d'une certaine aristocratie du cinéma qui ne laisse absolument rien passer, sinon 10 films, on va dire, bon, qui sont exceptionnels. Mais c'est pas parce qu'il y a 10 films exceptionnels que tout le reste, ça fait quand même 350 films de merde.
Et mais pour autant, certains techniciens de ces films vous ont dit, c'est ce cinéma de merde qui fait fonctionner le cinéma français. Et je sais que vous n'êtes pas d'accord.
Mais bien sûr, c'est complètement crétin. C'est comme là, toujours les gilets jaunes. C'est-à-dire, les gens là, ils demandent à manger. Ils demandent parce qu'ils ont faim. Et la réponse que notre président fait, c'est les flics. C'est-à-dire que écoutez les présentateurs à la télévision. LCI, c'est un réac total. C'est-à-dire qu'il y a une confrontation réelle entre la France. Moi, j'aime mon pays. J'ai deux artistes à côté de moi. Il y a une possibilité immense. Laissez faire aussi ce qui peut être à la marge, car c'est ça qui va faire avancer les choses, qui va les faire. Born to be alive. C'était étonnant.
Ah bah c'était étonnant, surtout que ça ne devait pas être un tube disco au départ, ça devait être quelque chose du domaine de la folk.
Oui, c'était une époque où tout était possible. Aujourd'hui, plus rien n'est possible.
Bon, juste une question, vous serez devant les Césars vendredi prochain, vous avez quand même autre chose à faire maintenant.
C'était une catastrophe, cette année j'ai failli le refaire et c'est mon agent qui m'a demandé de surtout pas le faire. Et quand j'ai commencé à regarder les films, j'aurais sorti la baramine, quoi.
Non, mais là où je suis assez d'accord avec Laurent, c'est que je pense que, effectivement, on est dans une époque où on est tellement mis dans des cases qu'on peut pas, les gens peuvent plus extérioriser leurs différences, leurs talents et tout. On est dans des cases. Il faut être comme ça. Mais même déjà à l'époque.
Histoire des cases, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Alors,
Fini mon raisonnement.
Daniel Gilbert.
Laurent. Tu sais que je suis bavarde, hein? Et puis comme c'est le soir, je peux bavarder un peu plus. Non, ce que je veux dire, c'est que moi, par exemple, j'avais fait des études pour être prof à la fac et que je faisais une émission populaire. Et là, ça les embêtait beaucoup, les journalistes. Ils se demandaient, mais franchement...
Qu'elle fout là, alors qu'elle aurait pu être prof?
Oui, alors que j'ai posé dans lui et je suis pas une dame de mauvaise vie. Et puis j'adore les challenges. Et un être humain, c'est quelqu'un de complet. Donc, il peut faire des tas de choses, et il faut que les gens se révèlent. Et c'est vrai qu'on est dans une époque où
c'est plus difficile.
C'est beaucoup plus difficile.
Oui, alors justement, on va retrouver un son d'époque. Bah, vous allez voir la transition. Un son d'époque pour vous, Daniel Gilbert. Le moteur d'une Fiat, c'est ce que vous nous aviez demandé.
Oui, parce que ma première voiture à Paris, ça a été la Fiat, une petite Fiat 500. Et j'ai maintenant la petite fille de celle-là. J'ai eu encore une Fiat 500.
C'est avec cette voiture que vous êtes parti du Cantal, de Clermont-Ferrand.
Non, d'abord, c'est pas...
Je sais, c'est pas la même chose.
C'est pas le Cantal.
Non, parce que moi, je viens du Cantal, c'est pour ça.
C'est vrai, tu viens d'où ?
Saint-Flour.
C'est vrai ?
Oui, c'est vrai.
La place d'armes.
Exactement.
Les magasins Jarlier. Ah non, mais attends. Vous permettez qu'on discute un peu d'Auvergne ?
L'hôtel de l'Europe, c'est vraiment midi première. L'hôtel de l'Europe,
Il y a un Christ noir ou une Vierge noire, me semble-t-il, à Saint-Flour. Hein.
Il faudra faire une émission sur place, comme on pouvait le faire avant. C'est avec cette voiture que vous aviez gagné Paris à l'époque ?
Pas du tout. J'ai même pris l'avion. D'accord, l'aéroport de Clermont était une cabane en bois. Maintenant, c'est
ça va mieux.
Oui, maintenant, ça va beaucoup mieux. Il n'y a toujours pas le TGV. Avec trois présidents de la République auvergnat, il n'y en a pas un qui a envoyé le TGV à Clermont. C'est pas normal.
Pourtant, vous en avez soutenu un.
Non, je ne l'ai pas soutenu. Je lui ai fait jouer de l'accordéon.
Bon, on va en parler tout à l'heure.
C'est différent.
Un bruit. Oui, bien sûr.
On va remettre
le bandeau à l'heure. Oui. Un bruit de voiture encore pour vous, Patrick Hernandez.
Oui, ça, c'est New York. C'est typiquement new-yorkais.
Qu'est-ce que vous faisiez à cette époque-là ?
Bah alors... écoutez, j'allais vendre ma salade aux États-Unis, ça s'est pas trop mal passé. Et effectivement, quand on arrive là-bas et qu'on entend ça, on a l'impression d'être dans un film, parce qu'on a vu ça au cinéma. Ça, c'est comme les montagnes de l'Arizona, c'est comme les cactus, avec leurs trois branches de l'Arizona. Ce sont vraiment des images qu'on a vues que dans des films. Et quand on est là-bas, on est complètement émerveillé.
Born to be Alive, ça a fait quel score aux États-Unis?
J'ai été numéro un aux États-Unis.
Pendant combien de temps?
Pendant quelques semaines. Et ça, c'est assez rare pour un français, effectivement. Ouais. J'ai reçu un très très joli disque d'or américain. Et c'est à New York, justement, au cours d'une audition de danseurs et de chanteurs que j'ai rencontré la célèbre, qui n'était pas célèbre à l'époque, la célèbre Madonna, effectivement. J'ai passé beaucoup de temps pour faire la promo aux États-Unis parce que c'est un grand pays et qu'on est obligé de d'y passer du temps. Donc j'ai presque passé un an là-bas à faire de la promo dans tous les États.
Il y a pire, hein, Patrick.
Oui, non, il y a pire. De toute façon, vous avez passé votre temps à faire de la promo sur ce titre
en Islande,
pendant des années. Pendant des années, vous avez fait de la promo de ce titre.
Voilà, en fait, ça a commencé en 79, ça a fini en 81 au Chili. J'ai commencé en Italie, j'ai fini au Chili 3 ans après, juste pour la promo de ce titre, parce qu'à l'époque, on n'avait pas le support ou très peu de support de clips, et donc on était obligé de se balader dans toutes les capitales du monde pour aller vendre son disque.
C'est bien mieux parce qu'on voyait l'être humain.
Oui, puis moi je voyais du pays, c'était pas mal.
C'était pas mal non plus. Un son encore plus violent pour vous, Laurent Bounic.
Les gars, vous fuyez. Bouclier, les gars, bouclier! Bouclier! Bouclier!
Ce que l'on entend, c'est une caméra embarquée parmi les CRS. C'est le son que vous vouliez, Laurent Bounic.
Oui, la guerre. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, le gouvernement fait tout pour couper en deux une France qui souffre. Et où, dans cette France qui souffre, évidemment, vous trouvez tout. C'est-à-dire que là, par exemple, hier, quelque chose contre l'antisémitisme, ce qui m'a énormément fait rigoler. Mais vraiment fait hurler de rire parce que moi,
malgré les actes de profanation des cimetières,
ça me fait pas rire du tout.
Malgré tout ce qui s'est passé.
Ça me fait pas rire du tout.
D'accord.
Ça me fait pas rire. Mais moi, ce qui me fait rire, c'est que aujourd'hui, on se rend compte que pas la majorité, heureusement, mais qu'il y a une énorme partie de Français qui sont ultra racistes. Quand vous avez 10 millions de personnes qui votent pour un raciste notoire, Le Pen, qui a été condamné pour ça, et que là, on se dit tout d'un coup, comme il y a un petit rat là, qui s'est moqué de la manif d'hier, et qui, dont je tairai le nom parce que je veux pas lui faire de pub, qui vend 200 000 exemplaires de chacun de ses bouquins, qui est un raciste notoire, et que là, on s'étonne aujourd'hui qu'il y ait des Français racistes. Mais moi, ma propre tante m'a traité de youpin, m'a traité de bougnoule. Parce que je suis issu, de l'immigration. Enfin, mon père était tunisien et juif. Et, j'ai été moi-même, à 20 ans. Et toute ma vie, je n'ai pas arrêté de me battre contre des gens qui me traitaient de bougnoule ou de youpin, etc., etc. Et là, aujourd'hui, on dit, oh, mais disons, les Français sont racistes. Il y a des Français racistes. Mais on se moque de qui, là? C'est depuis 40 ans que je vis ça, moi. Et c'est insupportable. Et là, ce que fait le gouvernement, c'est insupportable. C'est-à-dire, ce qui risque, parce que moi, j'ai été dans les manifestations des Gilets jaunes, ce qui risque, c'est une véritable, une véritable guerre civile. Et ça, moi, je vous le dis, hein. Parce que moi, j'en ai rencontré des gens qui venaient pour la première fois, dans des manifestations et qui se faisaient gazer pendant, excusez-moi du mot, qui se prenaient des gaz lacrymogènes pendant des heures et qui, à un moment donné, disaient, la prochaine fois, je reviens avec un fusil. C'est insupportable. Là, aujourd'hui, on est en train de vivre quelque chose d'extrêmement dangereux.
On va calmer le jeu tout de suite avec nos trois invités.
On part en 66.
Oui, Daniel.
Je voulais lui poser une question. Ta famille, il y a quelqu'un qui est séfarade de Tunisie?
Ouais, de Saxe.
Eh bien, mon compagnon qui m'a quitté il n'y a pas longtemps. Pour toujours, il est de Tunis. De Tunis, voilà.
Il y a des liens entre tout le monde, c'est vraiment la grande famille.
Et
de
moi,
la radio,
je suis d'une famille à la fois catholique et d'un autre côté, il y a des protestants, tu vois.
Avec un père déporté. Attention, moi j'ai rencontré des... je dis pas c'est tous les Français. je dis qu'il y a une énorme partie.
Oui, mais je pense
de
que quand
Français
on
qui
mais
sont
quand,
racistes,
oui, mais quand on le dit, racistes. Quand on en parle comme ça, moi je pense aussi que de toute façon, je comprends même pas que ça puisse encore exister, mais enfin bref, moi je suis très bisounours et normal, je pense, mais oui, je crois qu'il faut pas trop non plus en remettre parce qu'à ce moment-là, ça le développe encore plus. Il y a que des antagonismes, mais c'est moche
non,
la vie, c'est
un peu c'est la culture, c'est ce qui se passe à l'école. C'est comment dire, on peut toucher les jeunes. Je veux dire, moi j'ai vécu dans des quartiers framboisins entre autres. Je veux dire, c'est simple, hein, c'est 10 000 personnes qui sont 20 000 personnes qui sont éjectées de
qui sont mises à côté. Ça, c'est
voilà. Et je veux dire, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils deviennent? Et quand on parle de racistes, comment dire, quand je parle de Français, ce sont des Français issus de l'immigration où vous avez des comment dire des Français d'origine algérienne qui ne supportent pas les Tunisiens, qui ne supportent pas les Noirs. Vous avez des comment dire, enfin bref, dans toute la France, vous avez une France qui est cosmopolite, qui est
oui,
extrêmement
complexe. Comment vous expliquez que ce soit comme ça maintenant, alors que je me souviens quand j'étais petite, tout le monde s'entendait très bien. Et il y a plein de...
Non, tout le monde ne s'entendait pas très bien. Moi, je me souviens très bien dans les années 60, où il y avait un racisme aussi, notamment, moi, j'ai habité dans un petit village dans le Vercors.
Sur les Portugais.
Exactement, les Portugais étaient complètement ostracisés à l'époque. Donc...
Ah ben, moi, je me souviens qu'à Clermont, tout le monde, les gens s'entendaient très bien. Nous, on avait des amis de toutes les ethnies.
Bah, c'est là où il fallait vivre à cette époque-là. Alors, retour justement, en 66, Dalida réclamait le silence. Elle était déjà...
Comme toi, ben comme oui, toi maintenant.
Exactement, avec Baisse un peu la radio. Aujourd'hui, vous donnez la parole à une artiste qui lui ressemble, en tout cas qui la chante. Daniel Gilbert, c'est dans le spectacle Les Idoles que vous animez. Dalida, Baisse un peu la radio.
Très bientôt te diront pareil.
Je t'en supplie, baisse un peu la radio.
J'étais en train de rêver. Enfin, je dormais en paix. Ça ne pouvait pas durer. Tu me l'as prouvé pour ne pas changer. 7 heures du matin, à nouveau, je te dis déjà.
Je t'en supplie, baisse un peu la radio.
On est tous les deux en voiture, mais tu remets ça.
Je t'en supplie, baisse un peu la radio.
Est-ce que c'est bientôt fini? Est-ce que c'est bientôt fini? Réponds au lieu de cibler, au lieu de chanter les derniers succès. Autant que toi ne l'oublie pas, oui j'ai madame Mireille Mathieu avec son credo. J'aime Hallyday. Et les autres aussi, oui, mais j'aimerais bien dormir la nuit. Autant que toi ne l'oublie pas, oui, j'aime Hugo Frey. J'aime bien Antoine avec ses oeillets, ses chemises à fleurs, son harmonica et ses cheveux longs à la Dalida. Chanter les derniers succès. Autant que toi, moi j'aime Christophe, j'aime Claude François, Hervé Villard et aussi Sheila. J'aime les Beatles et Tutti Quanti. Oui, mais j'aimerais bien dormir la nuit. Je t'en supplie, baisse un peu.
Tu veux bien nous offrir encore une chanson?
Volontiers.
Puis à très bientôt, hein. Tu n'oublies pas de revenir à midi première. Il y a toujours une chanson. C'est la dernière chanson de cette émission que va vous interpréter Dalida, ici sur la place Émile Goudeau. Les enfants, rendez-vous, d'accord?
Oui. Le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
C'est un élan, c'était la guerre, dans la gare du quai.
Eh bien, il faut vous dire qu'il y a eu un problème, ça vous vous en doutiez, vous l'avez entendu brusquement. Le disque s'est emballé, il avait peut-être faim, en tout cas je ne sais pas, il a tourné certainement à une vitesse beaucoup plus rapide. Je pense que cette fois, nous aurons la chanson de Dalida dans la bonne vitesse. Il y a toujours une chanson.
Il y a toujours une chanson.
Vous vous souvenez de ce playback complètement raté de Dalida? Parce qu'en plus, ça va recommencer, ça n'en finissait pas.
Non, mais vous savez, j'ai une super mémoire. Hein. Ouais. Et donc, je m'en souviens très bien. Et mais, vous savez, c'était tout le temps de l'improvisation, une demi-heure par jour d'improvisation. Et moi, j'étais un peu triste quand il n'y avait pas de grain de sable. Parce que c'est tellement amusant d'avoir à improviser.
Ah,
ben, non, il n'y en avait pas tant que ça.
Non, mais c'est ce qu'on voit aujourd'hui, parce que sur Facebook, on peut regarder des choses.
Et moi, je vous parle en connaissance de cause, hein. Vous savez pas mieux que moi.
On a tous eu le cas, c'était des bandes en 19 ou en 38. Et souvent, il y avait une erreur quand on arrivait avec une bande. Oh, c'est arrivé pratiquement à tout le monde, ce genre de gag.
Nous, une fois, on avait quatre caméras quand on était à l'extérieur. Une fois, on en a eu trois, puis deux, puis une. Enfin, on a pu finir l'émission quand même. On a joué avec ça. Mais c'était super sympa. Ah bah oui. Moi, j'adore improviser maintenant. Pratiquement tout est enregistré. Après, on coupaille. C'est plus la vie. Moi, je trouve que ce qui est bien dans les émissions de divertissement, c'est qu'elles soient en direct parce qu'on a le même vécu à l'antenne que ceux qui regardent. Et ça crée déjà un lien plus fort.
Ah bah oui. Moi, je me souviens d'un accident, notamment sur un plateau improvisé, toujours les plateaux que vous aviez dans les villes et villages de France. Ringo qui jetait à terre un manifestant anarchiste. Vous vous souvenez de ça?
Un manifestant anarchiste, ça fait bien. Non, il faut, je rétablis la vérité.
Quand même, on le voit avec une espèce de banderole
oui,
avec le signe anarchiste.
Oui, mais justement, vous savez pas ce qui était écrit dessus. Hein.
Allez, marquez quoi?
Monsieur, non, pas du tout. Il y avait donc Ringo qui chantait « Je t'aime, je ne me battrai jamais ». Puis il était costaud quand même.
Ah, il était super beau.
Et puis tout d'un coup, oui, c'était un
super
beau mec.
Beau, ouais.
Hein, et il était... Ah ben c'est bien, il vous a plu. Alors oui. Et puis il y en a un qui arrive, les cheveux hirsutes, avec une banderole. Il y avait un manifestant, c'était à Dôme, en Dordogne.
Mais vous vous souvenez de tout, c'est fou.
Oui,
quand même.
Oui, j'ai une bonne mémoire, ouais. Mais je ne fais pas exprès. Et donc, il passe devant Ringo qui chantait. Juste au moment où il chante « Je ne me battrai jamais » et il met « Je déteste la télé ».
Ah, c'était ça qui avait marqué.
Oui, c'est tout. C'est tout, il n'y en avait qu'un. Il y avait un manifestant « Je déteste ou je n'aime pas la télé » et Ringo l'attrape en disant « Je ne me battrai jamais ». Il le plaque au sol.
Le plaque au sol, la caméra filme tout ça, c'est ce qu'on ne veut pas entendre.
On a rigolé.
Non, mais c'était vraiment excellent. Midi première, c'est la télé. Aujourd'hui, c'est un spectacle. On va y revenir au Casino de Paris, mais avant, tout a commencé sur France Inter pour vous. France
oui,
Inter.
Clermont-Auvergne.
Exactement.
D'ailleurs, la première fois que je suis arrivée à Paris, j'ai entendu des techniciens qui disaient « Tu te rends compte, elle vient de Clermont-Ferrand ». Enfin, je vous parle d'un temps quand même qui date, hein, j'ai quelques heures de vol, c'est pour ça.
Donc, commencer sur France Inter, de retour dans notre maison en fait aujourd'hui alors.
Oui, mais vous savez, c'est vraiment le destin qui m'a fait faire ce métier, parce que moi je rêvais pas du tout d'être connue, j'étais beaucoup trop complexée, beaucoup trop timide. Et comme je voulais être prof à la fac, j'ai fait un peu de théâtre amateur avec une copine.
Ouais, pour vous décoincer un peu.
Pour me décoincer un peu, oui, c'est joliment dit. Donc, je me suis décoincée dans la troupe, le crade.
Elle s'appelait vraiment comme ça, mais c'est pas possible.
Mais c'est pour vous que je le dis. Parce que sinon, ça veut dire le Centre Régional d'Art Dramatique de Clermont-Ferrand.
Mais
voilà.
Vous avez choisi le crade, c'était parfait. Oui.
Mais non, c'est les initiales,
mais j'ai bien compris.
Tu comprends,
Lolo ? Oui, j'ai bien compris. Moi aussi, j'ai fait des études. Moi aussi, j'étais professeur.
T'as été professeur aussi en quoi ?
Oui, en lettres.
En lettres ?
Oui, enfin,
classique
en
ou moderne ?
Classique.
Ben comme ma maman.
Très bien.
Voilà. Très bien.
Donc,
eh ben, je suis bien
contente.
Alors, attends.
Oui. On va quand même parler de ce qui se passe au Casino de Paris ou pas ?
Ben quand même. Hein. Ouais. Non, mais je veux juste dire que moi, c'est un jour, ils sont venus chercher quelqu'un pour remplacer la speakerine de la radio pendant 15 jours. Moi, j'avais mon sujet de diplôme, j'avais mon poste de pionne, j'avais ma bourse, j'avais tout. Tu vois ce que je veux dire ?
Ouais.
Remarque, le poste de pionne, c'était à Moulins. C'est pas la ville la plus gaie du centre de la France non plus, mais elle est très belle. Et donc,
là, on reconnaît Daniel Gilbert. Vous ne pouvez pas dire du mal. Oui, c'est pas la ville la plus belle. Et puis, mais elle est très belle.
Mais j'aime pas. Moi, j'aime bien voir le positif. La bouteille est toujours à moitié pleine d'eau ou de thé pour moi. Et donc, après, ils ont quand j'étais à la radio pour mon premier petit boulot, quoi. Et pendant 15 jours, ils ont monté le centre de télé régionale, ouais. Et le directeur a eu l'idée, il a été le seul d'ailleurs en France, d'organiser un concours un public.
Un concours, ouais.
Oui, et pour demander aux filles d'envoyer photo curriculum vitae pour devenir la téléspeakerine de Télé Auvergne, le futur France 3 Auvergne bien après. Alors donc, moi je sors du studio radio et on me met devant la caméra. Blue jean, parka, basket, pas maquillée, jamais allée chez le coiffeur, enfin bref. Pas du tout le style speakerine de l'époque. Hein. Et ils me font parler, ils me posent des questions, je réponds. Et puis ils me disent, il faut vous présenter. J'ai dit non, pas dans ma ville de province. Puis après, je me suis rendu compte que j'adore les challenges. Et puis, je me suis présentée. Il y a eu une présélection, les 44 sur scène. Les 6 les plus applaudis ont été gardés. Chacune des 6, on est passé à l'antenne. Et j'ai été élue par les Auvergnats et le Massif Central à 70%.
À 70%.
Et comment voulez-vous que je n'aime pas les gens? Pour moi, dans la vie, le plus important, c'est le contact humain.
Alors, vous allez les retrouver au
Casino
de Paris.
Alors, je suis bien contente de vous voir.
Ah bah, j'espère bien, parce que je suis un être humain. Ça me rassure.
Être humain.
Oui, mais mon équipe en doute, hein, je peux vous le dire. Alors, retour au Casino de Paris pour vous, Daniel Gilbert, avec les idoles et Midi Première, Mike Brandt, Joe Dassin, Dalida, Coluche, Claude François, que des morts, mais joués ici par des artistes. Comment ça va se présenter? Comme une émission de Midi Première, c'est-à-dire que votre rôle, ça va être de les interviewer?
Oui, je présente. C'est-à-dire que c'est comme un Midi Première de gala. Oui. On l'a déjà fait, hein, en province et tout. Et on fera une tournée après. Mais, si vous voulez, je les présente. J'ai même fait mettre des choses qui sont arrivées dans le vrai Midi Première, par exemple, avec Coluche et tout. Il y a des choses qui étaient assez marrantes.
Qu'est-ce qui est arrivé avec Coluche qui va être rejoué, donc, dans
ce
spectacle?
Oui, enfin, c'est un petit truc, mais.
C'est quoi?
Coluche, bon, c'est vrai que je m'entendais bien avec lui. Et alors, comme on était au 101, c'est-à-dire à l'opposé de votre studio.
Ouais, de l'autre côté.
Alors, quand on était au 101 et pas en province, à l'époque de Midi Première, eh bien, ça, il arrivait que Coluche vienne dans l'émission alors qu'il n'était pas invité, avec un pyjama rouge brillant, avec des rayures blanches. Il s'asseyait sur les genoux de Bernadette Lafont, une fois, une autre fois sur les genoux de Jean Manson. C'est marrant, jamais sur les genoux des mecs. Et la dernière fois...
Parce qu'il n'est pas Ringo.
Il est venu et on avait fait un repas... Suggérer un repas choucroute comme faisait Véronique Sanson quand elle était en Californie avec son musicien de mari. Et on avait reconstitué ça. Il y avait Michel Berger, Jonas, enfin tous ceux qui... Alain Chamfort et tout. Et tout d'un coup arrive notre ami avec ses croissants, Coluche. Il me dit alors, salut ma poule. C'est pour ça que j'ai fait la ferme célébrité après, évidemment. Ça s'imposait. Et il avait des croissants. Et puis tout d'un coup, il vient s'asseoir à la table, il prend de la choucroute, il la met sur la tête, il dit voilà, je suis coiffé comme Daniel.
Et c'est ça qu'on va pouvoir voir, notamment au Casino de Paris.
Oui. Non, enfin non, il prendra pas la choucroute, il viendra avec les croissants.
Il y a quelque chose dans leur façon de chanter qui s'approche donc de...
Ah mais, ils vous donnent l'illusion.
D'accord.
Et il y a des...
Donc ce sont des imitateurs. Ou pas?
Eh ben non, c'est très difficile.
Ce ne sont pas des sosies,
ce ne sont pas des imitateurs, mais ils vous donnent l'impression d'avoir Mike Brandt, d'avoir Dassin, d'avoir Claude François. Ils le font tellement bien, Dalida.
Et vous, ça ne vous fait pas de peine, parce que vous avez connu ces gens-là, en fait. Il n'y a pas des moments où ça...
De la peine, non.
Non.
Ça ne me fait pas de peine, moi, j'essaye de vivre... Je ne suis pas nostalgique du tout, moi, mais je fais partie de la nostalgie, hélas. C'est l'âge, hein, mon pauvre Patrick Hernandez. Hein. Qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? On ne va pas reculer. Hein. Donc, non, mais ce n'est pas que ça ne me fait pas de peine, mais ça me rappelle quand même des bons souvenirs. Mais je vois, les gens sont tellement heureux, parce qu'une chanson, elle peut être de 2019, ou elle peut être des années 70, ou 90. Ce qui compte, c'est le plaisir l'interprète donne dans l'instant à la personne qui l'écoute. C'est ça. Born to be alive, c'est toujours d'actualité. Elle aurait pu naître maintenant. Cette chanson, elle donne du plaisir aux gens. Ah bah,
tout à l'heure, d'ailleurs, je vais lui faire écouter une version qu'il ne connaît pas encore. Vous, quelle est votre chanson, Daniel Gilbert? S'il y avait une chanson, ce serait laquelle? Laquelle vous avez rencontré, je ne sais pas, l'amour ou...
Non, non, non.
Non.
Non, non, c'est pas ça. Non, vous savez, moi, j'étais mon idole quand j'étais étudiante à Clermont, c'était Brassens.
Et vous l'avez rencontré d'ailleurs?
Ben oui, il m'avait envoyé un petit mot quand j'ai commencé l'émission. Après, il est venu dans l'émission. On avait fait une émission aussi. Il y avait Jacques Dutronc en même temps. Et puis après, il m'avait demandé de présenter sa première partie pendant un mois, alors que lui faisait 6 mois à l'ancien Bobino chez Félix Vitry. Et moi, j'étais drôlement contente.
Daniel Gilbert et Brassens. Mais là, c'est Daniel Gilbert et les idoles de Midi Première le 11 mars. C'est au Casino de Paris.
Alors, je voudrais dire aussi que l'orchestre est dirigé par Laurent Contat et qu'ils savent...
J'ai l'impression de repartir en enfance. Quand vous dites ça, c'est exactement la même intonation que vous aviez à l'époque. C'est
mais
fou,
attendez, j'ai qu'une voix.
Hein. Bah, c'est vrai.
C'est vrai, à la naissance, on m'en a donné qu'une. Moi, je ne suis pas imitatrice. Alors, voilà.
Vous avez été imité ?
Une fois. Par Yves Lecoq. Mais autrement, Thierry Leluron me disait, je peux pas t'imiter, c'est pénible, parce que t'as la voix rauque et claire à la fois. Moi, je me rends pas compte, je m'écoute pas, je me regarde pas, donc je m'en fous.
Voilà. On va laisser Patrick Hernandez se regagner, enfin plutôt gagner, parce qu'il l'a pas regagné, gagner le micro, parce qu'on va l'écouter dans quelques instants, dans une version que l'on ne connaît pas vraiment de Born to be Alive. Donc Daniel Gilbert, c'est le 11 mars au Casino de Paris. Et puis je rappelle aussi, parce que j'ai lu quelque chose, il faut que je vous raconte, c'est une partie de l'autobiographie, parce que vous avez déjà eu d'autres autobiographies auparavant,
puis
chez Talent Édition.
Comme j'ai envie de raconter, quoi. Là, je vais faire aussi des salons du livre. Et puis j'ai eu l'occasion de parler de... Parce que ma famille compte énormément pour moi et j'ai beaucoup parlé de mon père.
C'est le début d'ailleurs.
Oui, mon père c'est déporté, parce que mon père, en plus, il avait eu une enfance terrible.
Très difficile,
oui. Oui, oui. Et c'est lui qui m'a appris la joie de vivre et a toujours resté debout.
Rendez-vous.
Oui, ben maintenant nous allons écouter, et nous on a le privilège de le voir, Patrick Hernandez qui va nous offrir une version particulière de Born to be Alive.
C'est à vous.
Something needed to occupy my mind. Yes, we were born to be alive. Yes, we were born. We're alive.
be alive. It's good to be alive. And we're alive.
Wow, oh, c'est merci. Super bah, beau.
C'est super, ouais.
C'est
Patrick
Hernandez
accompagné d'Erwan Anadon. Patrick Hernandez qui nous rejoint, qui court,
oh là là, il court à une vitesse. Oh là,
il faut dire qu'il a un marathon, hein. Star 80,
tout,
ça fait
fait le marathon.
Ça dure depuis combien de temps avec vous?
Alors écoutez, la tournée existe depuis 12 ans, la chanson depuis 40 ans, et la tournée Star 80 depuis 12 ans, avec le même succès, et nous sommes absolument ravis de vivre tout ça ensemble.
Mais j'imagine que ce n'est pas du tout cette formule-là que vous avez choisie quand vous allez chanter dans les stades, dans les Zéniths de France, c'est pas cette version-là?
Non, je chante la version originale, et je commence bien évidemment le spectacle avec cette chanson, puisqu'il faut quelque chose qui rassemble tout le monde et qui soit énergique. Donc effectivement... La version connue de Born to Be Alive,
elle
s'y prête, vraiment, vraiment.
Au départ, ce n'était pas d'ailleurs une version disco. C'est un producteur, une usine à tubes qui a fait que ce soit une version disco.
Oui, il y a eu trois versions en fait de Born to Be Alive. Il y en a une en 73 qui ressemble...
Qui est un peu comme celle-là, j'imagine.
Petit peu dans cet esprit acoustique. Ensuite, il y a une version rock en 75 qui n'a pas fonctionné du tout. Et en 78, un producteur belge, Jean Van Loo, qui était effectivement un producteur de tubes, a eu une idée un peu saugrenue. Au départ, je ne voulais pas le faire parce que ça ne m'intéressait pas du tout.
Ouais, le disco, ce n'était pas du tout
votre... Le disco, ce n'était pas ma tasse de thé du tout.
Tu regrettes pas, hein, aujourd'hui?
Non, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. C'est ce qu'on dit, effectivement.
Moi, j'aurais bien changé d'avis aussi. Hein.
Moi, j'aurais bien changé d'avis.
255 millions d'exemplaires vendus, même si vous n'avez pas tout touché.
Bah,
si. 255 millions d'exemplaires vendus dans le monde.
C'est effectivement la chance.
Mais c'est fait avoir par ses producteurs.
La chance que j'ai avec cette chanson, c'est qu'elle a dépassé les frontières de l'Hexagone.
Oui, ça, on peut le dire.
Et on a vraiment fait un carton plein partout. Et j'en suis l'auteur, le compositeur, l'interprète, l'éditeur et le producteur.
Oui, mais à quel moment vous avez récupéré d'ailleurs les droits de cette chanson? Parce qu'au départ, ça s'est pas passé comme ça. Vous avez été floué par les producteurs, rien touché. Et ouais.
Tout à fait. Donc j'ai mené procès pendant assez longtemps. J'ai récupéré petit à petit les choses qui, ceci étant dit, qui m'appartiennent, puisque finalement, il arrive un moment où l'éditeur, sur une chanson comme Born to Be Alive, ne fait plus que de la gestion passive. Il attend derrière son téléphone que les choses se passent.
Qu'est-ce que j'aimerais attendre derrière un téléphone?
Oui, ça représente à peu près 40% des droits d'auteur de la chanson, donc c'est absolument énorme. Donc j'ai récupéré tout ça, et voilà ce qui me permet de voir l'avenir avec...
Une certaine sérénité,
effectivement.
Oui. Juste une question, je crois savoir que normalement, cette chanson devait faire partie de la BO de Kill Bill de Tarantino.
Exact.
Et qu'est-ce qui s'est passé?
Il s'est passé que les héritiers de mon producteur qui est décédé en 2000...
Jean Van Loo, donc.
Jean Van Loo, oui. Ne sont pas d'accord les uns avec les autres, que c'est toujours très très compliqué de travailler avec eux. Et notre ami Tarantino voulait impérativement la version originale qui appartient encore à cette famille. Moi, j'ai une version à l'identique que j'ai réalisée dans les années fin des années 90, début des années 2000. Et donc, elle est vraiment identique, celle que j'ai faite. Mais il voulait, par souci vraiment d'authenticité, vraisemblablement, avoir la version originale. Et donc, le deal s'est pas fait parce qu'il y avait en plus, il y avait un crédit qui n'était pas énorme. On le sait sur les films, on touche pas grand chose. Mais moi, pour être sur la BO de Kill Bill, je lui aurais carrément donné.
J'aurais payé, bien sûr. Je peux imaginer.
Donné. Et les héritiers, donc, du producteur ont été un peu gourmands et il les a envoyés paître et il a pris un autre type disco qui s'appelle Don't Let Me Be Misunderstood.
Qui est pas mal, mais c'est quand même pas mal.
On est loin de l'artistique, là.
Et c'était pendant la bataille au sabre, à un moment, que devait passer ce titre. Je le regrette amèrement.
Qu'est-ce que vous racontez quand vous arrivez sur scène, donc dans les Zéniths, dans cette tournée? Vous dites quelque chose ou simplement vous chantez sur Star 80?
Alors,
Patrick Hernandez, vous avez la canne ou pas?
Oui, bien sûr.
Bon, la canne, d'accord. Vous êtes fringué comment?
Alors, je suis fringué. L'année dernière, j'étais en kilt. pendant 14 mois, kilt, chapeau melon, enfin un truc un peu rock'n'roll, quoi.
Et maintenant?
Et cette année, non, j'ai un manteau un peu particulier, un peu bariolé. D'accord. Les Rangers, un truc un peu rigolo. Et en fait, le propos de Star 80 pour nous, les chanteurs qui composons cette tournée, c'est bien évidemment de chanter pour moi, Born to Be Alive, ou pour Jean-Pierre Madère, Macumba, bien évidemment, ou Sabrina, vrai, Boys, Boys, Boys. Mais, on nous fait faire des exercices de style qui sont très sympas. C'est-à-dire que on monte un spectacle sur les années 80 et on doit en duo, en trio, ouais, ou seul ou en collégial interpréter des chansons qui nous plaisent des années 80.
Des chansons des autres. Alors vous interprétez qui ?
Alors cette année, je fais Quelques mots d'amour de Michel Berger pendant un passage qui s'appelle le piano voix, où on est seul face au public juste avec un piano, avec Alec Mention qui nous accompagne. Je fais Tomber pour la France d'Étienne Dao. On chante Sauver l'amour en collégial pour commencer le spectacle de Balavoine. On finit sur Laissez-nous chanter de Gold. Enfin, voilà, ce sont des exercices de style. Sabrina chante J'ai vu, elle chante une chanson de Rita Mitsouko. Enfin, on monte un spectacle.
Elle doit chanter Marseille Bay, là, hein, parce que à cette époque-là, si on reste dans le très fédérateur,
non,
ça peut être ça.
Non, c'est Johnny Jamison qui chante cette chanson.
Ah, bah c'est super.
Alors, c'est sublime, vraiment.
Je vous posais cette question sur comment vous étiez habillé, parce que je crois savoir qu'à un moment donné, vous avez joué nu derrière un drapeau de l'Union Jack.
Eh oui. C'est une histoire.
C'était pas dans Midi Première, ça.
Ben non, mais il avait une tenue qui était super, avec son chapeau et tout. Ouais. Très chic.
Alors c'est une histoire, oui, c'est une histoire qui vient du bal et du Périgord. J'ai fait longtemps du bal pour me faire les crocs quand j'avais une vingtaine d'années. Et effectivement, je crois que c'était à Bord-les-Orgues, me semble-t-il, un jour pour narguer un peu par défi. En fait, je me suis foutu à poil et je me suis enveloppé dans un Union Jack. Et à l'époque, on chantait des chansons de Led Zepp, des chansons des Cream, des chansons anglo-saxonnes pour la plupart. Et donc, ça a fait un scandale terrible. La moitié de la salle voulait me casser la gueule. L'autre moitié de la salle voulait que je revienne l'année d'après. Et donc, effectivement, on est revenu l'année d'après, mais je suis revenu en costume.
Déception. Même pas en kilt.
Même déception.
Non, le kilt, c'était l'année dernière.
On va parler cinéma dans quelques instants avec Laurent Bounig. Mais d'abord, je voulais vous faire entendre une version que je viens de recevoir de Born to Be Alive.
Oh non, pas une de plus.
C'est Das Kapital, ça vient de sortir sous le label bleu, c'est une formation de jazz. Comment vous écoutez ça ?
Avec plaisir, en tout cas j'ai toujours beaucoup de plaisir à découvrir ce que font les gens sur cette chanson qui me tient vraiment à cœur.
Le pire, ça a été quoi ?
Oh, il y a le pire, je dirais pas le pire, mais il y a des trucs qui sont marrants. Les Flamands en avaient fait une version un peu légère.
Et le meilleur alors ?
Je crois que il y a une version légèrement bossa nova qui a été faite par une chanteuse italienne qui s'appelle Andrea Celeste, que je trouve vraiment magnifique. Et c'est marrant, en ce moment, toutes les versions lentes, il y en a beaucoup, de Born to Be Alive, marchent très bien. Commercialement, j'en sais rien. Mais en tout cas, elles sont réussies. Celles qui sont moins réussies, à mon avis, ce sont les versions qui s'approchent de l'original.
Qui sont presque trop littérales.
Voilà.
Et l'original, c'est vous. On vous retrouve sur la tournée de Star 80, et c'est énorme. Quelques dates, demain à Rennes, le 22 à Châteauroux, le 3 mars au Zénith de Caen, d'ailleurs, plein de Zénith au mois de mars. Nancy, Dijon, Rouen, Angers, Nantes, j'en manque plein.
Et le
18 mai, bien sûr, au Stade de France, à Saint-Denis. Et puis je rappelle, Alive, l'autobiographie, c'est paru chez Mareuil Édition. Avant de parler cinéma, avant Laurent Bounig, je vous propose d'écouter une héritière des Yéyés. Cléa Vincent nous promet des nuits sans sommeil dans le NRV.
Le nouveau rendez-vous sur France Inter.
Cléa Vincent, Nuit sans sommeil, la programmation insomniaque de Jean-Baptiste Audibert.
Mesdames et messieurs, veuillez accueillir votre maître de cérémonie pour cette soirée des Césars.
Laurent Goumard.
Depuis que je suis petit, je regarde cette cérémonie. Chaque année, j'ouvrais les enveloppes dans ma tête une à une. Depuis mon canapé.
Ça va être là toute la soirée ?
Pas mal, le générique signé Marion Lelay et Juliette Medevielle. Laurent Bounic, pour vous accueillir avec en avant-première de cette soirée César qui aura lieu vendredi prochain. Vous vous êtes tapé, j'imagine, l'année dernière, vous avez regardé ?
Oui, tout.
Tout. Il faut dire que vous aviez, alors je vais resituer, vous aviez pendant combien de jours, vous m'aviez dit ?
C'est à peu près un mois.
Un mois, regardez l'entièreté du coffret des Césars 2018.
À la fin, vous ne dormez pas.
C'est ça, parce qu'on tombe un peu malade. Le titre d'ailleurs du livre, Le César nuit gravement à la santé.
Oui. Bah oui, parce que...
Ah bah c'est impossible, c'est surtout impossible. Et puis, là on est confronté à la réalité. À la réalité de ce
du qu'est... Du paysage, du cinéma français.
Du cinéma français. Et c'est une catastrophe.
Pas d'autre mot. Il n'y a pas que ça. Alors, bien sûr, parce que c'est un, on va dire, vous tirez à bout portant sur pas mal de films, mais il y a aussi plein d'exercices d'enthousiasme. Le film de Campillo, le film de Laurent Conté, l'atelier, enfin, il y a pas mal d'enthousiasme. Oui, il n'y a pas simplement un tirage à vue.
Je ne voulais pas.
Vous n'êtes pas le flingueur du cinéma français.
Ah non, je ne voulais pas. C'est-à-dire que dans les faits, c'est ce qui s'est passé. Mais, comment dire. Au départ, je n'avais aucun a priori. Et surtout, ce n'est pas une critique. C'est-à-dire que j'assume l'entière responsabilité de ce que je raconte, de ce que je ressens. Et je trouve qu'aujourd'hui, on ment derrière les mots et on n'exprime pas ses véritables impressions. C'est-à-dire qu'il y a toujours dans le cinéma, et surtout dans le cinéma, vous vous attaquez quand même à du lourd.
Ah ben là, vous vous attaquez à du lourd. Par exemple, Les Gardiennes de Xavier Beauvois.
Ah oui, cela.
C'est moche, c'est grossier, c'est une insulte pour le cinéma français en particulier, et mondial, si vous êtes à l'autre bout de la planète. Je tiens à dire quelque chose de tellement évident. Derrière vos bureaux d'acajou, quand vous décidez de produire ça, vous ne pouvez pas vous planquer éternellement. Nous, on les voit, ces images désolantes. À quoi servent nos écoles de cinéma et de cinoche ? Dites-moi, parce que bien sûr, vous critiquer les costumes. C'est vrai que les costumes, ils ont été récompensés, je crois, pour Les Gardiennes. Et les costumes étaient hallucinants. Moi, je m'en étais fait la remarque en voyant le film. Pour quelle raison ?
Si vous voulez, moi, je m'intéresse aux deux guerres.
Réalisateur, acteur, scénariste. Donc, il sait de quoi il parle.
C'est-à-dire que nous sommes confrontés aujourd'hui à des plateformes comme Netflix. Je suis assez fanat des séries qui se passent là-bas. Franchement, c'est un conseil que je donne à tous les chefs opérateurs français, à tous les réalisateurs français, c'est d'aller voir ce qui se passe à l'étranger et comment ils font du cinéma. Là, si vous voulez, vous avez des costumes. Surtout, la guerre de 14, c'est une période, et c'est non seulement une boucherie, mais c'est une période qui m'intéresse particulièrement. Les guerres m'intéressent particulièrement parce que c'est là où on voit le pire de l'être humain. Et pendant la guerre de 14, ça a été véritablement une boucherie. Et le film de Beauvois qui a fait des films formidables, celui-là, tout réalisateur peut se planter. Ça commence par des costumes qui sont même repassés. Et vous le voyez, et c'est juste pas possible. Et ça, c'est vraiment le stéréotype du cinéma français. C'est-à-dire que là, on ne raconte plus, quelque chose de réaliste, mais on est dans juste une sorte de paraître qui est même pas intellectuel. Parce que si c'était intellectuel, si ça faisait réfléchir, au moins, ça serait intéressant. En plus, dans son film, malheureusement, alors qu'il a fait vraiment des films très, très intéressants au niveau de la lumière, au niveau des cadres, là, la lumière, elle est insupportable. On voit les HMI, par exemple. On sent les HMI, la lumière blanche. C'est insupportable.
Alors, il y a d'autres films, on va pas tous les énumérer. Chez nous, de Lucas Bellevaux, vous écrivez en capital, mais c'est un téléfilm, nom de Dieu, ce qui est quand même le cas de pas mal du cinéma français actuellement, que ce soit dans les comédies ou dans les drames, on en a suffisamment parlé ici dans le Énervé. Comment la profession a regardé cette façon que vous avez eue de travailler leur cinéma ? Vous vous êtes fait cramer, Laurent Bounic ?
Ouais, un peu, ouais, je pense. Ouais. Comme dire, là, aujourd'hui, alors, je mentirais si je disais c'est aujourd'hui. Non, c'est pas vrai. C'est que j'ai sorti un film qui s'appelle Q, qui mettait en scène des véritables comédiens et pas des comédiens porno, qui faisaient du sexe réellement, qui a été suivi après par Lars von Trier, par Gaspard Noé, etc., etc. Enfin, il y en a plein qui m'ont suivi. Mais bref,
et ça a été un moment où il y a eu un tournant.
Et là, je me suis fait. Voilà, c'est-à-dire que là, à partir de là, les gens ont commencé à comprendre qui j'étais. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas compris que depuis Select Hotel, j'étais un anarchiste humaniste qui voulait le meilleur pour le monde et que je n'avais pas peur de mettre en scène des choses qui, normalement, n'auraient pas dû être mis en scène. Et ce qui est très étrange, c'est que je suis une star en Inde.
Oh, mais il y a du monde,
en Inde.
Oui, mais malheureusement, le film passe par Internet et passe pas par les... Mais bref, j'ai été contacté par une vingtaine de réalisateurs indiens.
Pour quel film précisément?
Pour Q,
film voilà. Qui a été un tournant dans votre parcours.
Ah, mais vraiment, et si vous voulez, on regarde plus. Et aujourd'hui, on ne demande plus à des cinéastes de faire des films. Moi, je suis cinéaste. C'est-à-dire, j'ai un regard, je sais techniquement comment on fait, je l'ai assez appris et payé pour ça. Là, aujourd'hui, on demande des faiseurs. Et d'ailleurs, on remarquera qu'il y a de plus en plus de producteurs qui filment.
Exactement, vous citez un producteur.
Et c'est insupportable, ils connaissent rien. Ils savent pas. Alors, bon, écoutez, là, moi, j'ai encore me cramé totalement.
Allez-y.
En plus, avec un mec que j'aime bien. Godot sort un film qu'il réalise avec le plus mauvais comédien actuel. Je suis désolé, Omar Sy, mais tu ne sais pas jouer. C'est-à-dire, c'est mauvais. C'est archi mauvais, ton film. Et comme hier, ici, je l'avais chroniqué, je lui aurais dit, tu ne sais pas jouer. C'est-à-dire, apprends, donne des cours. C'est-à-dire, sais ce que c'est un cadre, nom de Dieu. C'est-à-dire, rien, un enfant, alors on fait des jolis plans, mais on n'en a rien à foutre. Mais joli, quoi.
Alors, une chose sur les acteurs. Vous dites qu'Omar Sy est le plus mauvais acteur. C'est comme si vous lui décerniez le prix Citron.
Tous les mauvais acteurs avaient son succès.
Ouais. Et en plus, il n'est pas.
Non, mais moi, ça me gêne pas le succès.
On n'est pas mauvais en général. On est mauvais dans un film parce qu'on n'a pas été dirigé. Je le regardais, par exemple, dans
aujourd'hui,
Le Chant du Loup.
Problème...
Il est plutôt très bon dans Le Chant du Loup,
Omar Sy. Le problème aujourd'hui, c'est au niveau décisionnaire, ce sont les comédiens qui décident. Si le cinéma français va mal aujourd'hui, alors attention, il y a un problème, c'est qu'il n'y a jamais
Comment
eu autant d'entrées.
Comment ce sont les comédiens qui décident ça, c'est intéressant.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si Omar Sy veut faire un film, quel qu'il soit, même si ça dure un peu longtemps, il va trouver l'argent. Si Jamel Debbouze veut faire un film, il va trouver l'argent. Et donc, ce sont
mais
eux qui
Mais le cinéma
vont...
s'est toujours appuyé sur les vedettes.
Oui, non, mais sauf que là...
Ils sont décisionnaires, c'est ça.
Maintenant, ils sont archi-décisionnaires. Et si... Alors, le problème qu'il y a, c'est qu'il n'y a jamais eu autant d'entrées l'année dernière. Jamais, quoi.
Mais c'est pas un problème.
Ah ben, si c'est un problème, parce que les producteurs, eux, se satisfont et se disent, bon, ben voilà, c'est cool, nous, on fait de la merde, de toute façon, il va y avoir de l'argent, puisqu'il y a les plus grandes rentrées. Le problème, c'est que, par exemple, cet été, il y a sur 60 films, sur 60 comédies, il y en a une qui a marché. Il y en a qu'une seule, c'est je sais plus quoi, ta mère. Et il y en a qu'une seule, et ça a marché moyennement, puisque ça fait 800 000 entrées. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu, sur les 60 films, c'est 200 millions foutus en l'air. Et que, au lieu de prendre cet argent-là, et de faire des films à 2, 3 millions, mais des films intéressants, et sur le nombre de films intéressants de cinéastes, là, on aurait une cinématographie qui se... qui relèverait un peu le menton, quoi.
Vous en êtes où, vous, justement, dans ce parcours de cinéaste?
Je pense partir à l'étranger.
Partir en Inde?
Il va aller en Inde!
Au Canada. Et sinon, j'ai des projets, j'ai aussi des bouquins. Enfin, là, je suis en discussion pour d'autres éditions, puis des bouquins qui vont évidemment pas faire plaisir. Aujourd'hui, ce qui est terrible, c'est que dès qu'on ouvre sa gueule en France, on est éjecté. C'est-à-dire, on n'existe pas, et vraiment, c'est terrible.
Vous avez reçu le coffret des Césars.
Lui, il peut l'ouvrir quand même.
De 2019.
Le problème, c'est que j'ai vu 15 films, mais je n'en parlerai pas cette année. Et je m'excuse pour avoir parlé d'Omar Sy, parce que vraiment, c'est dégueulasse. Vraiment, mais voilà, parce que lui, il a pris pour tout le monde, donc c'est dégueulasse. Et vraiment, parce que c'est un mec qui est assez chouette dans la vie. Donc,
et plutôt bon acteur, vraiment, je vous assure, ça dépend les films dans lesquels
mais
il a du charme et du charisme.
Mais ce qui n'empêche que, aujourd'hui, ce sont les comédiens qui décident de faire du cinéma. Vous savez, moi, je suis fan absolu de Gabin. Il a fait pratiquement, enfin peut-être pas 100% de chef-d'œuvre, mais il a fait vraiment des films hyper importants. C'est lui qui allait chercher les réalisateurs. Aujourd'hui, moi j'ai aidé, j'ai créé.
Ah bah donc vous voyez, c'était exactement.
Non,
la même
mais ça
chose.
C'est Gabin, ça c'est Gabin. Moi, personnellement, j'ai découvert à peu près une dizaine de stars aujourd'hui. Vous croyez qu'il y en a une seule qui viendrait me voir juste pour juste m'aider, hein?
Il faut demander à Julie Gaillier.
Oui, ben justement, allez-y.
Ouais, parce que vous l'avez fait tourner.
Mais elle est occupée, t'as pas compris.
Il faudra lui téléphoner, on vous donnera son numéro. Merci Laurent Bounic. Le César nuit gravement à la santé. C'est paru aux éditions De La Tour et c'est particulièrement décapant et pas du tout injuste. Le NRV première partie, c'est fini. Merci Béné Gilbert, merci Patrick Hernandez.
Merci à vous.
On se retrouve, nous, dans 15 minutes, après le journal, avec ça.
Quel calme. C'est vraiment la vie rêvée ici. On se demande ce qu'on fout à Paris, on mène vraiment une vie de con.
Les bobos dans le pré, c'est le retour à la terre. Le rendez-vous est pris, alors à tout de suite.